BFM Business, midi, leur H.
Présenté par Edwige Chevrier.
Bonjour à tous, bienvenue dans leur H. Au menu cette semaine, vous savez, les consultations autour de la réforme des retraites et puis aussi la composition de la future Commission européenne. Est-ce que quel sera le poids de la France au sein de cette nouvelle Europe? Et puis bien sûr, sur les retraites, on verra si c'est un pas en arrière ou un pas en avant du président Macron. On verra ça avec Stéphane Rosès qui est déjà en studio avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous, politologue, président de la société de conseil CAP et puis bien sûr, prof, vous aussi, vous avez votre rentrée. On en parlera aussi avec Jean-Claude Mailly, secrétaire général, ancien secrétaire général de Force Ouvrière, et puis Alain Minc, essayiste économiste, qui lui considère que la France, eh ben, en tous les cas, c'est elle qui va tirer les marrons du feu de cette nouvelle Commission européenne. Il nous dira pourquoi. Mais pour l'instant, place à l'actu. L'actu, c'est signé aujourd'hui Julien Rizzo. Bonjour Julien.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. On commence ce journal avec Aigle Azur qui devrait déposer le bilan. Un comité d'entreprise extraordinaire se déroule en ce moment en vue d'une procédure de redressement judiciaire. Une décision qui intervient après une lutte de pouvoir à la tête de la compagnie aérienne et l'arrivée d'une administration provisoire pour la diriger. Les immatriculations de voitures neuves en France ont chuté de plus de 14% en août selon le CCFA, un chiffre à relativiser. L'année dernière, le mois d'août avait été exceptionnel avec l'arrivée d'une nouvelle norme anti-pollution européenne obligeant les constructeurs à liquider leurs stocks. Sur les 8 premiers mois de l'année, les ventes de voitures reculent de 3%. Les salaires des cadres ont encore augmenté, plus 2,4% en moyenne cette année d'après le dernier baromètre Expectra. C'est un peu moins que l'an passé, mais la conjoncture reste porteuse, notamment par l'évolution numérique des entreprises. Les salaires des cadres ont fait un bond de plus de 10% sur ces 4 dernières années. Jean-Paul Delevoye devrait intégrer le gouvernement avant demain soir pour porter la réforme des retraites. Il participera aux négociations avec les partenaires sociaux qui seront reçus à Matignon jeudi et vendredi. La semaine dernière, l'exécutif affichait sa préférence de jouer sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge de départ. L'industrie française renoue avec la croissance. L'indice PMI manufacturier d'août est en hausse et s'établit à 51,1 points, soit un gain de près d'1,5 point par rapport au mois de juillet. Cela s'explique notamment par le nombre de nouvelles commandes qui affichent un rythme de progression le plus élevé depuis un an. Nouvelle escalade dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Les deux pays ont commencé dimanche à prélever de nouveaux droits de douane sur leurs importations mutuelles. Pour Pékin, ces nouveaux droits de douane portent sur plus de 1700 produits américains, dont le pétrole brut pour la première fois. Et de son côté, Washington perçoit désormais 15% des droits de douane sur plus de 125 milliards de dollars de produits chinois. Une rentrée parlementaire tendue à Londres. Les députés britanniques doivent voter demain sur le projet de Brexit de Boris Johnson. L'opposition travailliste a déjà annoncé hier son intention de déposer un projet de loi pour empêcher un Brexit sans accord. Et le Premier ministre a déjà menacé d'exclure du parti tous les députés conservateurs qui voteront contre son projet. De son côté, Michel Barnier, le négociateur de l'Union européenne, a déclaré hier que Bruxelles ne bougerait pas sur le backstop, le filet de sécurité irlandais, que Boris Johnson veut absolument modifier. Le CAC à la mi-journée, il est plutôt en hausse, presque stable, à plus 0,18% à 5490 points. Et puis pour l'euro-dollar, pareil, une stabilité, moins 0,28%, 1 euro s'échange, 1,09$.
Merci Julien. Julien Rizzo qu'on retrouve pour un rappel des titres à 12h30. Tout de suite, Stéphane Rosès.
BFM Business, leur H, la question du jour.
Stéphane Rosès, la question du jour, c'est un peu de savoir si c'est un pas en avant, un pas en arrière sur la réforme des retraites. C'est un peu ce qu'on va retrouver, c'est le « et en même temps » versus post-gilet jaune, un peu pour le président Macron.
Oui, en même temps, il faut avancer pour le président Macron. Il faut justifier ce que l'on fait. Il faut tenir un pays qui semble être seulement relié par les aléas de la relation entre le président et le pays avec un affaiblissement des corps intermédiaires et en même temps, justement, comme ce lien est direct, que les corps intermédiaires sont affaiblis, il faut absolument éviter le retour de formes de mobilisation type gilet jaune qui pouvait être interprété comme une chacrerie. Le président en est conscient, il a dit à Borne.
Est-ce que c'est même une obsession chez lui ?
Oui, c'est une obsession parce que, comme il l'a dit à certains dans son entourage, il s'est pris un TGV sur la tête. C'est-à-dire que au fond, il faut bien voir que ce mouvement a surpris, sa nature n'a pas été correctement évaluée au départ. Mmh. C'était une interpellation du pays à partir de la question fiscale et du sentiment d'injustice sociale, du retour de la souveraineté de la nation qui avait été le fondement de l'élection d'Emmanuel Macron.
C'est une erreur, permettez-moi quand même, c'est une erreur des politologues comme vous, Stéphane Rosset, c'est une erreur d'analyse comme les économistes lorsqu'ils voient la récession ou qu'ils n'ont rien vu venir. Donc moi, je me tourne vers vous parce que vous êtes un des politologues les plus réputés et vous n'avez rien vu venir.
En tout cas, en septembre, j'avais écrit avant les Gilets jaunes, dans un interview, j'avais dit que le macronisme était fini. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'il avait dit devant les députés, le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est la restauration de la souveraineté de la nation, de sorte que dans les réformes qu'il menait, y compris celles de la SNCF, le pays consentait aux réformes alors qu'il disait qu'il y avait de l'injustice sociale. Et quand, durant l'été, après le refus de Merkel de bouger en Europe, le président semble renoncer à la restauration de la souveraineté de la nation, alors les injustices sociales ne sont plus acceptables. Et donc, les Gilets jaunes, il y a la question des fins de mois, bien sûr, mais il y a une interpellation du souverain qui semble s'être détourné de son propos, de sorte que les réformes ne sont plus justifiées. Et là, l'analyse qui n'a pas été justement faite par l'exécutif a entraîné que le président a mis entre lui et le pays qui soutenait très fortement les Gilets jaunes, nonobstant les violences, le Premier ministre. Ça a accru la radicalité, de sorte qu'Emmanuel Macron et le Premier ministre, quand les grilles des Tuileries ont été renversées, on pensait pendant quelques jours que si les Gilets jaunes décidaient d'aller à l'Élysée alors que l'opinion les soutenait encore, ils ne pourraient rien faire. Ils ne sont pas allés à l'Élysée parce que c'était une jacquerie, pas une révolution, pas une pré-révolution. Mais le président a gardé de tout ça le vif sentiment que même si les Européennes apparemment se sont pas mal passées, qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas de front syndical uni, on le voit encore sur le dossier des retraites, à tout moment, le pays sur un sujet
inflammable
peut à nouveau se mettre en mouvement.
Alors, pour vous, Stéphane Rosset, ces propos sur lesquels on a beaucoup glosé, en tous les cas du président, en disant finalement c'est la durée de cotisation qui compte parce que ça prend en cause la durée des carrières longues, en l'occurrence, c'est pour ça. Est-ce que pour vous, c'est un peu le synonyme de cette hésitation qu'il va avoir maintenant lors des réformes?
Oui, absolument. Il y a ce sujet que vous indiquez, et derrière, c'est pas seulement la CFDT qui peut avoir le sentiment qu'enfin elle est entendue par le président de la République. C'est également le fait, dans la modalité même du débat, qu'on comprend que la réforme des retraites auront lieu après les municipales pour essayer de préserver le climat national et pas trop handicaper les candidats à la République en marche. Donc vous avez raison. C'est on avance, les drivers, c'est la réforme, c'est tenir. Et puis, il y a aussi un environnement européen très instable. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue dans la prudence du président de la République. Alors, il n'y a pas une grande visibilité.
On reviendra sur ce contexte européen, comme vous dites, extrêmement instable. En l'occurrence, deux questions, parce qu'on entend une sorte de petite musique en disant, tiens, le président, il est en train de se chiraciser. Même la droite, ce week-end, elle a chargé contre Macron en le taxant d'immobilisme. Il y a une petite musique qui est en train de
moi,
de
ce qui m'intéresse là, c'est l'articulation entre ce qu'Emmanuel Macron fait au G7 et ce qu'il pourrait faire en Europe. Au fond, dans l'analyse des politologues, puisque vous en parliez, je fais partie sans doute d'une minorité qui pense qu'on est toujours dans le pays dans un moment bonapartiste qui fait le lien singulier entre le président, le personnel politique mis de côté et le pays, mais que pour être un Bonaparte, il faut dire où on va. Lors du G7, clairement, le succès du président Macron vient du fait que souvent, nos dirigeants, dans l'internation, peuvent facilement se projeter à partir d'une vision et régler des crises comme dans le passé, d'autres ont su le faire. Et là, Emmanuel Macron a été excellent au G7.
D'accord, mais vous répondez sur ma chiracisation. On va parler de l'Europe, Stéphane Rosset.
Ça voudrait dire qu'Emmanuel Macron a renoncé à faire bouger les lignes en Europe.
Voilà, c'est ma question.
De sorte...
Non, mais en France.
Oui, mais les deux sont liés.
Oui, bien sûr, oui. Mais...
Parce que si vous dites en France et pas l'Europe, c'est que vous intériorisez le fait que pour que la France se réforme bien, il faudrait que de toute façon, elle accepte la façon de faire de nos prédécesseurs.
Non, mais c'est d'accord, mais l'Europe
ça,
va parler. C'est juste, pardonnez-moi d'insister, c'est, vous avez la réforme des retraites, vous avez le projet de loi de finances 2020 avec très très peu d'économies sur les retraites, distribution de pouvoir d'achat. On a un peu l'impression de se retrouver au temps de Chirac où on donnait un petit peu à tout le monde et surtout pas aucune économie de poste de fonctionnaire.
Oui, vous avez raison, le discours du Premier ministre, second discours de politique générale du Premier ministre, c'est ce que vous indiquez sur ce qu'on croit comprendre, la façon dont il va s'orienter. Si par chiracisation, vous semblez dire qu'il y aurait un renoncement comme Chirac avait dit que les Français étaient conservateurs en 95 et qu'après le mouvement social de 95, il arrêtait, je pense que ce serait pas exactement dans le plus mauvais scénario de votre point de vue, une chiracisation. Ce serait, on avance prudemment.
D'accord.
Car Chirac, après l'affaire Malik Oussekine en 86,
de la réforme de l'enseignement supérieur,
comme ensuite après le mouvement de 95, brutalement, il avait arrêté. Je ne crois pas que ça soit le propos d'Emmanuel Macron qui veut continuer à avancer. Le sujet, c'est que il y aura consentement du pays que si, au plan européen, les Français voient ce qu'il a fait comme au G7, c'est-à-dire on justifie les réformes au travers d'une vision. Car, quand même, pourquoi le président Macron dit les conditions ne sont pas revenues de mon lien avec le pays ? C'est qu'il n'a pas répondu à la question essentielle. Les efforts qui sont demandés visent-ils à renforcer notre modèle, quitte à faire des efforts, quitte à un peu d'injustice, ou au fond, faire comme les prédécesseurs, une politique qu'il avait lui-même dénoncée comme étant la politique du rabot,
d'accord,
le fétichisme budgétaire.
Sur l'Europe, j'y reviendrai largement dans le RH avec Alain Minc, mais la question qu'on peut se poser, c'est que finalement, est-ce que la France sera capable de faire bouger ? On voit que la situation en Espagne est quand même extrêmement complexe, en Italie on n'en parle même pas, bon, il y a le Brexit bien sûr, avec le psychodrame permanent, et puis il y a quand même l'Allemagne qui s'interroge beaucoup sur son propre avenir. Pas l'idéal pour pour faire bouger l'Europe, ou au contraire, vous voyez, je réfléchissais en me disant, non, peut-être, au contraire, c'est une opportunité pour Emmanuel Macron.
Je pense que c'est une opportunité s'il change légèrement son logiciel. Au fond, lors du G7, avec Poutine, puis avec Trump, puis avec les Iraniens, il a bien compris que le monde procédait des peuples et des nations. Le génie européen, selon moi, qui est le contraire des politiques qui sont menées aujourd'hui, c'est de faire de la diversité des peuples une force au travers d'une Europe forte et de projets forts. Mais ça veut dire, de la part des Français et d'Emmanuel Macron, un certain réalisme.
Oui.
Le réalisme, c'est de réparer les imaginaires nationaux à partir de leur modèle économique, social, politique, chacun fort divers, et d'en faire ensuite une force pour faire de vrais projets européens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous le voyez, la panne économique de l'Europe, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne est attentiste en attendant que les autres deviennent ce qu'ils sont, ce qui est évidemment impossible, car ce qui se passe, c'est au contraire la montée des nationalismes. Donc, en un mot, Emmanuel Macron peut faire bouger l'Europe si c'est un universaliste réaliste, c'est-à-dire qu'on accepte la différence des peuples. En Europe, on part de la différence des peuples pour en faire quelque chose et non pas se dire « je vais renvoyer les autres dans leur but, il faut être dur avec l'Angleterre, il faut... » Donc, je pense que si les Français, Emmanuel Macron, le président Macron, sont réalistes, partent de la différence des peuples, alors il est possible de faire bouger l'Allemagne et l'Europe. Il faut le faire parce que, de toute façon, la montée des nationalistes va nous l'obliger, notamment ceux qui vont remplacer Angela Merkel en Allemagne.
Est-ce que, juste, il nous reste une minute, alors c'est peut-être au prof, eh bien, mettons, c'était le sujet une partie du sujet de l'intervention du président du MEDEF à ces rencontres des entrepreneurs de France où nous étions. Geoffroy Roux-de-Bézieux a eu cette phrase en disant « L'État n'a plus le monopole de l'intérêt général. L'entreprise a un rôle à jouer. » Oui. Vous êtes entre les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste
l'entreprise
intéressant, je trouve, comme débat.
L'entreprise a bien compris, venant des consommateurs et des citoyens autour des localisations des entreprises, qu'il y a une montée d'exigences à l'égard des entreprises sur leur empreinte sociale, sociétale et environnementale. C'est le rapport Nota...
Sénard,
voilà. Mmh. C'est la question de la raison d'être des entreprises. Donc, en France comme ailleurs, oui, mais est-ce quand que... l'État s'affaiblit, par contre, l'idée que les entreprises puissent se substituer à l'État du point de vue de l'intérêt général, c'est évidemment une blague. Pourquoi ? Parce qu'anthropologiquement, les États tiennent ensemble des peuples et la symbolique, l'importance de l'État ne se résume pas à l'efficacité de l'État en politique. Il y a une symbolique de l'État. Il y a une anthropologie de l'État. Donc il y a une forme de naïveté ou lobbyisme de faire croire que l'entreprise pourrait se substituer à l'État. Non, chacun doit remplir son rôle. Et d'ailleurs, les chefs d'entreprise les plus avisés regrettent dorénavant, c'était l'inverse autrefois, que l'État soit arrivé à du court-termisme alors que les entrepreneurs, j'allais dire que nous sommes, car je suis aussi un entrepreneur, ont besoin d'un minimum de visibilité et de règles pour pouvoir investir et comprendre ce que font les différentes parties prenantes, dont les sociétés.
Merci beaucoup, Stéphane Rosassour. Très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Président de la société de conseil CAP, chef d'entreprise, vous le disiez, et politologue. Tout de suite, c'est le club de l'RH, le retour avec Jean-Claude Mailly, l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière. On viendra bien sûr sur la question des réformes des retraites. À tout de suite.
BFM Business. Le club de l'heure H.
Club de l'heure H avec Jean-Claude Mailly, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, ancien secrétaire général de Force Ouvrière. Donc évidemment avec vous, on va parler de la rentrée, du moral peut-être des Français, mais la réforme des retraites. Vous avez suivi tous les derniers développements, en l'occurrence, on en a parlé avec Stéphane Rosès. Jean-Claude Mailly, est-ce que vous êtes en train de vous dire, finalement ça va être une non-réforme, quoi, ou ça va être une réforme financière comme le redoute in fine Laurent Berger de la CFDT?
Écoute, c'était pas prévu comme ça au départ. Non. Je rappelle que c'était surtout pas une réforme financière, en tous les cas, pendant la campagne électorale. Bon, là, je pense qu'il y a une tentative de changement de méthode. C'est évident. Je pense que si le président de la République a dit, l'âge pivot, je préfère la durée de cotisation, je pense qu'il y a un peu de Delevoye derrière, je pense, moi, franchement. Puisque c'est bien, il y avait les deux hypothèses dans le rapport Delevoye. Peut-être qu'à la fin, il y aura les deux, ou il y aura, je sais pas, hein. En tous les cas, ça a au moins le mérite de dire c'est ouvert. Le dossier est ouvert, il n'est pas complètement fermé. Oui. Maintenant, vous savez, chaque fois qu'on va ouvrir un tiroir sur ce dossier des retraites, il va y avoir un problème. Parce que les problèmes sont très, très, très nombreux. On voit très bien d'ailleurs les premières réactions, que ce soit chez les salariés ou chez les non-salariés, puisqu'il y a toute une série de professions libérales qui appellent à manifester également.
Oui, cette ouverture, comme vous dites, finalement, mais elle est un peu contradictoire, parce que d'avoir un âge pivot, une durée de cotisation, enfin, c'est un peu contradictoire.
Vous savez, c'est un peu aussi l'arbre qui cache la forêt, parce que dans les deux cas, qu'on utilise la durée de cotisation, s'ils veulent l'allonger, ou qu'on utilise l'âge pivot, ça conduit à travailler plus longtemps. Hein, donc, la différence avec la durée de cotisation, c'est que vous pouvez, par exemple, intégrer plus facilement les carrières longues. Voilà. Mais
ça veut dire que, par exemple, si vous prenez quelqu'un qui a fait des études, pour le coup, qui rentre à 24-25 ans, lui, il va partir à 67 ans. Quoi.
Oui, c'est pour ça que je pense que c'est pas complètement arrêté. Hein, je pense que ça n'est pas complètement arrêté. Enfin, ils vont avoir les discussions, puisqu'il y a 8 mois, 9 mois, je sais pas combien, quelques mois de discussions. Je pense que c'est une erreur. Moi, il fallait rester sur une réforme générale sans un impact financier. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas que dès le projet de loi de finances 2020, il y ait des éléments qui soient des éléments financiers, parce que ça va être assez compliqué comme ça.
Ça veut dire quoi, des éléments financiers, l'occurrence?
Par exemple, de dire on accélère la réforme Touraine, qui prévoit 43 ans en 2035.
Bien sûr,
par exemple, c'est un des éléments. Je pense que ce serait une erreur. Je pense qu'il n'était pas obligatoirement sur la même longueur d'onde, c'est ce que j'ai cru comprendre entre l'Élysée et Matignon sur cette affaire. Bon, là, il se donne du temps. Maintenant, l'objectif final de la réforme, bien malin, celui qui peut savoir sur quoi ça va déboucher.
Qu'est-ce qui est acceptable pour vous? Qu'est-ce qui aurait été acceptable pour vous ou pas?
Non, c'est pas une. Bah, je crois que de mon point de vue personnel, parce que je suis plus en responsabilité, de mon point de vue personnel, il ne faut pas toucher ni à la durée de cotisation, ni à l'âge. Quel est l'âge moyen de départ en retraite aujourd'hui dans le privé? Il est à 63,5 à peu près. Hein, c'est à peu près 63,5. Dans le public, il augmente. Dans les régimes spéciaux, il augmente également. Non, parce qu'il y a à la fois quels critères on prend, qui va décider, comment le système va être organisé. Et comme souvent en France, on a un peu l'habitude de parler de l'organisation du système avant d'être clair sur les objectifs. Par exemple, moi je ne vois pas l'utilité qu'on fasse dans un système nouveau une structure fêtière pour montrer que c'est un régime universel, mais quelle est l'utilité de supprimer la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de supprimer l'Agirc-Arrco, tout en maintenant la mutualité sociale agricole. Enfin, y a déjà, c'est déjà plus universel, si vous voulez, en tant que tel. Donc, mais il y a toute une série. Mais je prends quelques exemples. Si vous prenez le taux de rendement, ce qu'on appelle le taux de rendement des caisses de retraite complémentaires aujourd'hui, il se situe à 6%. Alors, ce que dit le rapport de Levoy, lui, pour le moment, s'engage à 5,5. Ça veut dire qu'on a déjà, dans l'engagement, un rendement insuffisant par rapport aux caisses de retraite complémentaires que sont aujourd'hui l'Agirc et l'Arco. Pourquoi aller jusqu'à 3 plafonds de sécurité sociale? Ça veut dire que il n'y aura plus de régime complémentaire. Ou ce seront des régimes complémentaires réservés aux 2 ou 300 000 cadres supérieurs qui sont au-dessus de 120 000 euros par an. Et là, qui va prendre ce marché? Ça va être les compagnies d'assurance qui vont prendre ça. Donc ça veut dire qu'on introduirait une dose de capitalisation. Si on démarre par le haut, est-ce qu'on veut le faire après en bas? Voilà, il y a toute une série de problèmes qui vont se poser et qui sont loin d'être anodins. Toutes les problèmes de polypensionnés, quel type de solidarité on va mettre en place. Je pense que quelques mois de consultation et de travail, ça n'est pas inutile.
Est-ce que c'est tenable le calendrier? Alors on disait un petit peu de flou depuis les propos de Gérald Darmanin. On voit qu'il a été recadré en l'occurrence par le Premier ministre, qui dit non, on va rester dans le calendrier qui a été fixé. Il y aura un texte de loi présenté en 2020, début 2020. Est-ce que c'est tenable, à votre avis?
Je rappelle d'ailleurs qu'il y a un projet de loi, et si ce projet de loi aboutit et qu'il est voté, derrière il y a des ordonnances, il y a des décrets, etc. On dit 2025, je vois pas d'ailleurs comment on peut rétablir dès aujourd'hui un équilibre financier compte tenu des projections d'aujourd'hui, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a 3 ans, c'était équilibré, aujourd'hui ça ne l'est plus, peut-être que dans un an, ça le sera, j'en sais rien, c'est très compliqué ce genre d'affaires. Qu'on soit sur 9 mois ou un an, bon, je crois que le premier objectif c'était de passer les municipales, après qu'on soit sur 9 mois ou un an, c'est pas l'essentiel, surtout que sur beaucoup de dispositions, vous allez voir, il va falloir 15 ou 20 ans pour faire évoluer le système. Vous prenez la rémunération des fonctionnaires, par exemple, on a parlé des enseignants ou des catégories qui ont très peu de primes.
J'en ai parlé avec Olivier Dussopt.
Voilà, très peu de primes, ça ne va pas se faire en 3 ou 4 jours, c'est évident. Le problème des professions libérales, où il va falloir augmenter leurs cotisations, contrebalancer ça par une baisse de la CSG, ça ne va pas se faire en un an ou deux ans non plus. Donc, il y a un gros, très très gros travail. Je me demande si le jeu en vaut la chandelle, quoi, d'une certaine manière.
C'est un peu la question qu'on peut se poser à vous écouter, en tous les cas.
Oui, franchement,
Si ce n'est qu'on était dans un truc complètement abscons, vous aviez vos 42 régimes, on partait plus tôt, plus tard, enfin bref.
Non, mais je ne dis pas que dans le système actuel, il n'y a pas de problème. Par exemple, tout le problème des polypensionnés qui perdent des droits, le problème des femmes qui ont des carrières hachées, etc. Il y avait des problèmes à régler. Est-ce que pour autant il faut tout chambouler? J'en suis pas convaincu.
Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un effet cagnotte sur les régimes spéciaux?
C'est évident.
C'est évident.
Mais non, mais je rappelle, on n'en parle pas beaucoup, mais je rappelle qu'il y a
la mission... Ici, on en parle pas mal, mais c'est vrai qu'il faut vraiment...
La mission de Levoy, mais il y a l'autre mission. L'autre mission, qui est une mission Bercy et direction de la Sécurité sociale. Cette mission, son objet, c'est de dire tout ce qui est cotisation sociale, ce sera prélevé par les URSSAF. Tout ce qui est impôt, par la DGFiP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les caisses de retraite n'auront plus la maîtrise de leur recouvrement. C'est ça que ça signifie. Or, ça représente...
Pourquoi?
Parce que c'est l'URSSAF, donc c'est l'État, l'URSSAF. C'est l'État qui va prélever les cotisations. Aujourd'hui, une caisse de retraite, l'Agirc-Arrco, mais c'est vrai pour les caisses de profession libérale, perçoivent les cotisations, versent les prestations, ont des réserves, c'est normal, pour pouvoir assurer au moins un an. Demain, qu'est-ce que va reverser l'URSSAF? Elle va reverser l'intégralité, elle va se garder les réserves. C'est pour ça qu'il y a aussi des caisses de libéraux, notamment, qui protègent. Je rappelle que, globalement, la masse des réserves financières, tout régime confondu, ça doit tourner autour de 160 milliards d'euros. Ça n'est pas rien. Donc il y a clairement une volonté des pouvoirs publics, et ça on en parle moins, de récupérer d'une manière ou d'une autre ces réserves. Alors le rapport de Levoy dit oui, mais on peut pas vous dire, on en utilisera une partie pour payer les droits du passé, mais combien on sait pas. Donc il y a une deuxième incertitude financière, mais qui n'est pas le moindre des problèmes dans le dossier.
Comment est-ce que vous connaissez bien Jean-Paul Delevoye, vous avez discuté longuement avec lui. Est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation? Est-ce que ce serait bien, puisqu'on parle de demain, il pourrait intégrer en tous les cas le gouvernement pour prendre en charge ce dossier? Ce serait plutôt intelligent?
Je pense que ce serait intelligent, oui, bien sûr. C'est un homme de concertation, Jean-Paul Delevoye. Il n'a pas la grosse tête, il connaît ses dossiers, il bosse, il a une bonne équipe. Je pense que si la réforme doit réussir, il faut quelqu'un comme lui. Maintenant, c'est pas fini.
Ouais. Quel regard vous portez sur vos ex-collègues, en l'occurrence syndicats, qui restent toujours en ordre dispersé cette réforme,
écoutez,
notamment.
Je ne veux pas me prononcer sur les tactiques ou les positionnements des uns et des autres. Aujourd'hui, on voit bien des positionnements différents, mais y compris par exemple la CFDT. J'ai encore entendu Laurent Berger ce matin. Il dit qu'il refuse les 64 ans, mais il refuse l'allongement de la durée de cotisation aussi. Donc voilà. Après, il y a une phase de concertation. On va voir ce que ça donne in fine.
J'en profite pour dire que demain, justement, dans la matinale à 8h15, je reçois Yves Verrier, votre successeur à la tête de Force Ouvrière. Est-ce que le rôle de la CFDT, il est clé pour faire passer cette réforme? Non, mais c'est un peu provocateur de vous poser à vous cette question.
Non, je suis sorti du cadre, comme on dit aujourd'hui. Non, mais je crois que du côté de l'Élysée, on a compris, après l'épisode des Gilets jaunes, que si l'on veut changer de méthode, on ne peut pas faire sans les interlocuteurs sociaux. Je ne dis pas qu'ils le font de gaieté de cœur, parce qu'ils ont plutôt le sentiment que les acteurs sociaux sont des freins depuis le début. Des freins au changement, que ce soit le patronat ou les syndicats, que les négociations c'est long, ça bouge pas assez les choses, etc. Maintenant, je pense qu'ils ont compris aussi que s'ils ne discutent pas avec les organisations syndicales et patronales, ça peut encore être plus compliqué. Et le feu couve encore, d'une manière ou d'une autre. Il y a le dossier retraite, mais on voit très bien qu'il y a toute une série de secteurs où il y a des problèmes. Vous avez dans le service public, les hôpitaux, les pompiers, la police, etc., la pénitentiaire. Vous avez le problème des routiers avec la hausse du gasoil, etc. Donc ça fait beaucoup de feu potentiel.
Vous avez dit, Jean-Claude Maillet, ce que je redoute, c'est que finalement cette réforme de retraite ne soit pas une vraie réforme de retraite. Et puis on peut se demander pourquoi il fallait la faire. Juste un point, Geoffroy Roux de Bézieux, toujours lui, président du MEDEF, disait à ce même micro, mais en fait, il faut oser dire, finalement, il faut allonger l'âge de départ à la retraite. On ne peut plus partir à 64 ans, 63 ans, 62 ans, 64 ans. Il a raison, finalement.
Non, il n'a pas raison là-dessus. De fait, avec les règles actuelles, le départ en retraite s'allonge. Faut savoir qu'aujourd'hui, l'âge moyen d'entrée dans la vie active, il est autour de 21-22. Ouais. Vous rajoutez déjà les 42 ans actuels, ça fait déjà 63. Pour beaucoup de personnes, sauf les carrières longues. Si vous avez fait des études, ça vous met à 67 ans, d'une manière ou d'une autre. L'âge d'acquisition d'un emploi stable, c'est 27 ans aujourd'hui. Donc avant, vous faites des petits boulots, vous avez du chômage, etc. Donc je ne vois pas. Après, il y a le sujet tabou. Le sujet tabou, c'est est-ce qu'on peut, oui ou non, augmenter à un moment donné les cotisations, même faiblement. Ouais. Et c'est là que, de mon point de vue, le président, il est dans une contradiction à gérer. Il doit gérer une contradiction. Il y a à la fois, il dit lui-même, comme au G7, il faut réformer le capitalisme, il faut un nouveau modèle économique, etc. Mais dans le même temps, il ne fait pas la même chose au niveau national. Donc là, il faut qu'il gère cette contradiction.
Eh bien justement, ça tombe bien, on va en parler dans un instant sur ces contradictions du capitalisme avec Alain Minc. Merci beaucoup Jean-Claude Maillet d'avoir été avec nous, ancien secrétaire général de Force Ouvrière. Et donc dans un instant, après le rappel des titres, c'est Alain Minc qui sera notre invité dans le RH.
BFM Business, midi, leur H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
Il est déjà en studio avec nous, j'en profite pour le saluer. Alain Minc, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On évoquera l'Europe, la Commission européenne, et puis bien sûr, on essaiera d'essayer de comprendre un petit peu sur cette réforme des retraites qui est un peu c'est les deux grosses actualités de cette semaine. Mais pour l'instant, le rappel des titres, c'est avec Julien Rizeau.
Aigle Azur qui devrait déposer le bilan. Un comité d'entreprise extraordinaire se déroule en ce moment en vue d'une procédure de redressement judiciaire. Une décision qui intervient après une lutte de pouvoir à la tête de la compagnie aérienne et l'arrivée d'une administration provisoire pour la diriger. Les immatriculations de voitures neuves en France ont chuté de plus de 14% en août, selon le CCFA. Un chiffre à relativiser. L'année dernière, le mois d'août avait été exceptionnel avec l'arrivée d'une nouvelle norme anti-pollution européenne obligeant les constructeurs à liquider leurs stocks. Sur les 8 premiers mois de l'année, les ventes de voitures ont reculé de 3%. Les salaires des cadres augmentent toujours. Plus 2,4% en moyenne cette année d'après le dernier baromètre Expectra. C'est un peu moins que l'an passé, mais la conjoncture reste porteuse, notamment par l'évolution numérique des entreprises. Les salaires des cadres ont fait un bond de plus de 10% sur ces 4 dernières années. Jean-Paul Delevoye devrait intégrer le gouvernement avant demain soir pour porter la réforme des retraites. Il participera aux négociations avec les partenaires sociaux qui seront reçus à Matignon jeudi et vendredi. La semaine dernière, l'exécutif affichait sa préférence de jouer sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge de départ. L'industrie française renoue avec la croissance. L'indice PMI manufacturier d'août est en hausse et s'établit à 51,1 points, soit un gain de près d'un point et demi par rapport au mois de juillet. Cela s'explique notamment par le nombre de nouvelles commandes qui affiche un rythme de progression le plus élevé depuis un an. Le CAC 40 à la mi-journée, plutôt stable. Il s'est plus 0,33. 5 498 points. Et puis pour l'euro-dollar, stable aussi, moins 0,21%. 1 euro s'échange, 1,09 $.
Merci, bravo. Julien Rizeau était donc nous présenter le rappel des titres et tout de suite c'est Alain Main qui est avec nous.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité Alain Minc, essayiste économiste. Alain Minc, merci d'être avec nous. En plus, vous étiez déjà avec nous, en l'occurrence, parce qu'au MEDEF, vous avez participé à une table ronde qui était diffusée en direct sur BFM Business, en l'occurrence sur le qui va réduire, qui pour réduire la fracture. Et vous, vous avez fait des propositions assez fortes sur le capitalisme. On y reviendra peut-être, parce qu'en tous les cas, certains chefs d'entreprise se demandaient un peu qu'est-ce qui vous prenait d'être à ce point-là social, Alain Minc. On va revenir là-dessus, juste... Changement de méthode du président, est-ce que vous avez peur que l'immobilisme fasse son retour à la tête de l'État français?
Oh non, ça je pense que le risque est voisin de zéro. Enfin, les présidents de la République ont la stratégie de leur tempérament. Et quant au tempérament d'Emmanuel Macron, on le connaît. Donc je pense qu'il a raison de réintroduire dans un débat comme les retraites les partenaires sociaux, parce que ça va être infiniment plus difficile qu'on ne l'imagine. Ce qui est difficile, c'est pas tellement le débat cotisation H pivot. Là, on bouge des symboles. La vraie difficulté, c'est que autant ce système s'impose naturellement, si on le souhaite, pour les gens qui entrent sur le marché du travail. Ils commencent aujourd'hui, ils entrent dans le nouveau système, ça durera 35-40 ans, mais il y aura la transition. Mais quand on va entrer, pour ceux qui sont nés après 1964, dans le raccord entre le nouveau système et l'ancien système, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des gagnants. On ne les entendra pas. Il y aura des perdants, on les entendra.
Donc, on ne les entendra pas parce que ce seront essentiellement des cadres et des cadres supérieurs qui, eux, se font moins entendre.
Oui, ils se font moins entendre, mais dont la situation est aussi quand même bien meilleure.
Moins fragile.
Le taux de chômage des cadres correspond grosso modo au plein emploi dans les autres pays. Donc, il vaut mieux avoir les partenaires sociaux à table et, le cas échéant, l'un d'entre eux comme, disons, accompagnateur, ce que sera la CFDT.
Donc, vous pensez qu'il a eu raison de réintégrer la CFDT, mais qui lui reste aussi prend un peu ses distances ce matin, hein, parce que Laurent Berger disait normal. Attention, c'est normal, hein, c'est des petits jeux politiques.
Je regrette beaucoup que le dialogue avec la CFDT, y compris au pire moment des Gilets jaunes, quand Laurent Berger tendait une main secourable, que ce dialogue n'ait pas eu lieu avec l'intensité qu'il méritait.
Il a changé, le président. Stéphane Rosès disait tout à l'heure, avec les Gilets jaunes, en fait. C'est une expression qu'on lui avait donnée à l'Élysée. Le président s'est pris un TGV sur la tête, sur le front. Est-ce qu'il a vraiment changé, puisque vous le côtoyez?
Écoutez, les gens intelligents apprennent toujours. Donc, évidemment que personne ne nie à Emmanuel Macron l'intelligence. Donc, il a tiré un certain nombre d'enseignements de cette période-là.
Ça dépend ce qu'on appelle l'intelligence.
Non, mais l'intelligence des situations, l'intelligence des problèmes et l'intelligence des situations. Et je pense qu'il a compris, en effet, qu'on ne peut pas faire des réformes de cette ampleur de plein fouet.
Donc, là.
Et par exemple, je trouve
que vous
très
dites
utile
surtout
la nomination éventuelle de Jean-Paul Delevoye au gouvernement. J'ai entendu Jean-Claude Mailly l'approuver. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve Jean-Claude Delevoye est un des rares hommes d'expérience de l'ancien monde qui a rejoint le nouveau monde, puisque c'était les expressions. Et donc, je trouve qu'il en manque, ayant ce poids, cette expérience, cette bouteille, et qu'il soit à la table du Conseil des ministres, me paraît, au-delà même des retraites, une très bonne chose.
Oui, ça fait un petit peu... On sait que votre truc est un tout petit peu, c'est un comp venant de votre part, à la main, mais un tout petit peu trop d'énarque à la tête de ce gouvernement, on va dire ça comme ça.
Mais c'est pas tellement des énarques, ce sont des puceaux. Il y a des énarques qui ont des expériences politiques.
Énarques, puceaux, à mon avis, certains vont apprécier. En l'occurrence, vous prenez un changement de Premier ministre.
Ça, je ne le dirai pas ici. Je pense que, en tout cas, le Premier ministre aura très bien contribué à la mise en charpie de la droite.
Oui, de ce point de vue-là, c'est sûr que c'est réussi. Donc, on rentre clairement dans une autre phase. Dernière question sur ce plan-là. On rentre clairement dans une autre phase, acte 2, acte 3,
bon, il y aura
du quinquennat. Oui, on rentre vraiment dans une autre phase.
Et le tout dans un contexte qui devient un contexte international difficile.
Voilà.
Je veux dire, les coups de pied inlassables que donne le président Trump au système commercial mondial aboutissent à ce qu'on a lu ce matin, l'OCDE ou le FMI, je ne sais plus lequel des deux, dit on vient de perdre absurdement 1% de croissance mondiale.
Non, c'est Angel Gurria, ici même, à ce même micro, qu'il a dit ce matin sur
Bfm
Business.
Alors, c'est en effet très gratifiant pour l'homme qui aimait les tweets, mais que des tweets coûtent 1% de croissance mondiale, c'est quand même très ennuyeux.
Alors, justement, on va parler d'Europe, c'est pour ça que vous êtes là à la main, parce que lorsqu'on discutait, on préparait cette interview, vous me disiez, moi, vous estimez que... Emmanuel Macron a vraiment façonné cette future Commission européenne et qu'elle est très française. Moi, je rétorquais en disant, mais attendez, vous regardez au sein même de la structure de cette Commission européenne, aucune grande direction n'est dirigée par des Français. Certes, il y a Sylvie Goulard, est-ce que c'était la bonne personne à nommer ou pas? Et donc, a priori, au marché intérieur. On voit tout ça est en train de se jouer en ce moment même, du reste. Ursula von der Leyen, elle est en train de créer cette Commission pour pouvoir ensuite la proposer au Parlement européen.
Écoutez, il est clair que Macron a réussi à susciter un quadrige à la tête de l'ensemble européen incroyablement ouvert à la France. Bon, Monsieur Altmaier, le ministre le plus proche de la chancelière,
qui était mon invité la semaine dernière,
a dit d'ailleurs, Ursula von der Leyen, ce n'est pas une présidente allemande de la Commission, c'est une présidente franco-allemande, puisqu'elle a été proposée par Emmanuel Macron. Et on sait bien que les conceptions européennes de Madame von der Leyen sont très proches des conceptions de Macron, outre le fait qu'elle est francophone. La présence de Christine Lagarde à la BCE devrait climater la poursuite d'une politique monétaire telle que les Français et les Européens hors Allemagne le souhaitent, c'est-à-dire accommodante, et elle l'a déjà dit. Encore qu'il faudra sans doute que la Banque centrale innove, parce que contribuer à relancer avec des taux zéro, c'est un peu... On ne pourra pas faire comme avant. Le président du Conseil européen, Charles Michel, est on ne peut plus proche Belge. Idéologiquement, disons, du système Macron. Idem pour Borrell, le ministre des Affaires étrangères de l'Europe. C'est quand même une conjonction de personnalités avec lesquelles la France sera de plein pied. Premier élément, et à mon avis, majeur. Je pense que Sylvie Goulard est quelqu'un qui... est comme un poisson dans l'eau dans ce monde-là, et a une vraie personnalité, parfois abrasive, mais a une vraie capacité d'influence. La Grande-Bretagne se retire. Or, le paradoxe à Bruxelles, c'était que, et ça c'est toute l'intelligence des Britanniques, qui savent pratiquer l'influence parfois plus habilement que le pouvoir.
Alors que nous, c'est l'inverse. Nous, on veut le pouvoir,
mais l'influence, on ne sait pas. Ou on le fait mal. Donc, de ce point de vue, il est clair qu'il va y avoir un jeu qui va s'ouvrir. Le poids des Anglais à Bruxelles était très supérieur à leur engagement politique dans l'Europe.
Voilà, mais là...
En plus, vous avez un président...
Là, ce sont les Allemands, quand même, qui ont pris le pouvoir.
Bon, d'abord, les Allemands ont été très bons dans le lobbying. Mais deuxièmement, on est à un moment avec une Allemagne affaiblie. Elle est affaiblie politiquement et elle est affaiblie économiquement. Elle est affaiblie politiquement parce que la chancelière atteint la fin de son règne, parce que la constitution d'un prochain gouvernement sera extrêmement difficile, parce qu'on ne peut pas exclure que le prochain chancelier soit un vert, donc extrêmement pro-européen, et proche, je dis, on ne peut pas exclure. Je ne dis pas que ça se produira. Et donc proche des thèses françaises.
Vous êtes en train de nous dire que c'est un boulevard européen pour Emmanuel Macron. Pourtant, on a l'impression qu'il est très isolé.
Je ne crois pas du tout. Moi, je pense profondément que d'une certaine façon, mais ça suppose qu'il le fasse ou qu'il continue de le faire avec humilité, comme il l'a fait pour les nominations, il est d'une certaine façon le boss du système. Mais il ne faut surtout pas le montrer. Bon, et de ce point de vue, la situation économique allemande, qui est quand même... ça n'est pas un simple effet cyclique. C'est la fin d'une très grande période d'extraordinaire prospérité allemande, fait que le rapport de force est moins déséquilibré pour nous.
Est-ce que vous diriez, vous connaissez très bien l'Allemagne, on va le rappeler à la main, est-ce que vous diriez que c'est un peu la fin du modèle allemand tel qu'il a existé, en tous les cas, ces 30 dernières années ? Très exportateur, très industriel.
Très exportateur, très industriel, très ancienne économie. Ce modèle est affaibli, indéniablement affaibli. C'était un modèle assis sur une stabilité politique et une stabilité avec les partenaires sociaux. Il est aussi affaibli. Vous savez, le rôle des syndicats allemands demeure très fort dans la vieille industrie, mais pour les jobs zéro ou l'Allemagne ubérisée, il n'existe pas. Donc c'est une autre Allemagne, d'autant plus que les Allemands sont en première ligne face à l'évolution économique de la Chine. Il ne faut jamais oublier que l'Allemagne est plus ouverte au monde deux fois plus que nous. C'est-à-dire, les exportations représentent quasiment le double du produit intérieur. Donc, les vents du large, surtout quand ils sont mauvais, la touchent plus que nous, ce qui est une mauvaise chose pour nous, puisque c'est notre premier partenaire.
Mais alors, justement, ça veut dire aussi qu'on voit bien qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Ça se voit à propos des négociations avec les États-Unis, avec le Brexit aussi. À la limite, les Français seraient plutôt pour un... Il y a un no deal, et bien tant pis, il y a un no deal. Les Allemands, eux, ils sont beaucoup plus embêtés, en l'occurrence, parce que leur industrie dépend... Plus du Brexit que... Mais idem sur les tensions commerciales avec les États-Unis.
Sur le Brexit, tout le monde avait dit l'unité continentale ne durera pas. C'était d'ailleurs le pari anglais, ça l'est depuis 10 siècles. En réalité, l'unité continentale a duré et il n'y a jamais eu d'affrontement dur entre les Allemands et les Français. C'était des ajustements, d'autant plus que les Français vis-à-vis du Royaume-Uni sont dans une position particulière. On l'oublie trop souvent. La France a des intérêts stratégiques, militaires, nucléaires. N'oubliez jamais que les essais nucléaires britanniques sont sur les ordinateurs français en termes de services secrets qu'aucun autre pays a. Et c'est pour ça que la France a toujours été ferme sur le fond et très modérée et très désireuse de préserver cet acquis.
Cette nouvelle Commission européenne, pour en revenir à ce sujet, parce que c'est vraiment le sujet en tous les cas des prochains jours à la MAC, est-ce que quelles seraient ses priorités ? On a vu que Bruno Le Maire, encore une fois, au micro de BFM Business, mais pas seulement, a expliqué qu'il fallait changer les règles de la concurrence parce que le rachat, en l'occurrence, d'une entreprise allemande par le géant chinois du ferroviaire était absolument une honte. Est-ce que vous pensez que c'est la priorité ? Ou quelles sont vos priorités, selon vous ? Celles qu'il faudrait fixer ?
D'abord, il y a deux agendas, car il y a l'Europe des 27... puisqu'il y a guère de chances que les Anglais restent, malheureusement. Et il y a l'eurozone. Ce sont deux agendas tout à fait différents. Sur l'eurozone, il y a comme priorité l'achèvement de l'union bancaire, la réalisation des marchés de capitaux, quelques pas en avant, mais pas excessifs en matière budgétaire. Sur l'Europe des 28, oui, le sujet concurrence est vrai, mais ce n'est pas le principal sujet. Le sujet principal, clairement, où l'Europe, compte tenu de ce que sont devenus les États-Unis, a un rôle spécifique à jouer, elle a toujours été d'ailleurs assez exemplaire, c'est en matière de climat et d'énergie. Et je pense que ce sera la première priorité, elle l'a d'ailleurs dit, de Mme von der Leyen.
Donc pour vous, c'est vraiment la priorité, oui. Plus que...
Non, mais sur la concurrence, on sait bien qu'il faut que Bruxelles ne pense pas que le bonheur du consommateur par le prix bas est l'alpha et l'oméga de toute politique. Mais si les Allemands... Le vrai changement là-dessus, il est allemand. Si les Allemands changent à cet égard, de la même manière qu'ils ont changé sur un sujet important, presque plus important, qui est le contrôle du capital des entreprises européennes. Quand les Français disaient « il faut une golden share européenne », les Allemands riaient. Après l'OPA hostile mené par des Chinois sur la boîte de robotique allemande la plus emblématique, qui s'appelait KUKA. Et une chose qui est fascinante, qui est l'entrée à 10% du capital de Daimler-Benz, c'est-à-dire Germany Inc., d'un investisseur chinois, les Allemands ont vite changé d'avis. Donc il y aura là-dessus des choses qui se feront, et c'est au moins aussi important que la concurrence.
Dernière question sur, sur ce sujet, le marché intérieur, c'est la France peut... Sylvie Goulard...
Écoutez, ça va être un grand marchandage, on ne peut pas prédire les choses. La France, nécessairement, aura un grand job. Mais à la limite, le poids prêté à la France dans le système, d'une certaine façon, va peut-être desservir la négociation en cours.
D'accord. Pourquoi vous
Mais
dites
parce
ça
que sur le thème, pas trop pour eux.
On verra si vous avez raison. Enfin, c'est pas forcément l'analyse qu'on peut lire ici ou là, hein, à la main. Donc, pour vous, en tous les cas, on verra si vous avez raison. Alors, je voudrais qu'on termine sur ce sujet sur lequel vous avez planché au MEDEF, sur le qui pour réduire la fracture. Et le sous-titre était vers un capitalisme solidaire. Vous avez fait une proposition assez iconoclaste, puisque la question, c'est de savoir s'il fallait le capitalisme a-t-il vécu? Est-ce qu'on peut réinventer le capitalisme? Vous dites, en tous les cas, maintenant, si on veut gagner de l'argent, c'est plus par le capital que par le travail. Donc, il faut aussi que les salariés bénéficient de ces incroyables plus-values qu'on peut éventuellement faire.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'on considère une proposition de bon sens comme iconoclaste. Les choses sont très simples, et je les ai dites devant les patrons. Aujourd'hui, la part du capital dans la valeur ajoutée globale a cru aux dépens de la part du travail. Deuxièmement, le monde où on est fait que des hausses de salaire massives, à cause de la concurrence internationale, sont impossibles. Si vous considérez qu'il faut réduire les inégalités entre capital et travail, vous n'avez pas d'autre solution que de faire des salariés des actionnaires. Vous n'allez pas leur faire investir leur épargne. D'ailleurs, on est dans un pays...
Donc les fonds de pension, vous n'y croyez pas?
Ça prend 40 ans de fabriquer des fonds de pension. On est dans un pays qui est le seul pays où il y a des actionnaires salariés déjà très significatifs dans de très grandes entreprises. Les salariés sont le premier actionnaire ex aequo de Bouygues, ils sont le premier actionnaire d'Eiffage, ils sont le premier actionnaire de la Société
Générale.
Ils sont le premier actionnaire de Saint-Gobain et tant d'autres. Et d'ailleurs des sociétés où le climat social est bon. Est-ce un hasard? Donc, l'idée, c'est que je pense qu'il faut distribuer des actions gratuites, mais d'une manière cette fois-ci favorable pour une large part aux gens de revenus modestes, et non pas, comme ça l'est actuellement, au seul profit des dirigeants. Voilà. Et j'ai même cité un chiffre qui est de leur dire, si on distribue 10% d'actions salariées, bon d'accord, votre rentabilité dividendaire va baisser de 10%, mais si ça sauvegarde le système, ça vaut cet effort. Alors si on trouve ça iconoclaste, moi je trouve ça simplement pondéré et de bon sens, ça m'inquiète sur l'état de perception du monde tel qu'il est, du patronat.
Vous avez vu un peu la réaction quand même aussi dans l'assistance.
Mais je sais ce qu'est le patronat français, vous savez. Ouais. C'est pas la première fois que je pense que le patronat français, dans ses tréfonds, pas un certain nombre de patrons, a souvent été en retard d'une évolution. Et comme je suis plus âgé que beaucoup, j'étais jeune à l'époque du discours d'Antoine Riboud aux Assises de Marseille du patronat, il y a de ça 50 ans. Donc, le problème de la modernisation intellectuelle du patronat n'est pas achevé. D'ailleurs, je trouve que l'actuel président du MEDEF, de ce point de vue, fait de très grands efforts, infiniment plus que son prédécesseur.
Est-ce que vous estimez quand même que c'est difficile, dans des PME, dans des ETI, de distribuer 10% de son capital dans une grande entreprise, à la limite, pourquoi pas, gratuite, il faut bien insister, parce que ça, sinon ça existe beaucoup.
Oui, mais
la nouveauté,
c'est pour ça que j'ai dit à ses patrons, on peut très bien, dans les petites entreprises ou les entreprises moyennes, faire des actions sans droit de vote. Il ne s'agit pas de toucher au pouvoir, il s'agit de toucher à la redistribution.
Oui, ça c'est le point clé en l'occurrence. Oui. Est-ce que vous pensez que de toute manière, le capitalisme il atteint un tout petit peu ses limites telles qu'on l'a connu ? Est-ce qu'il faut réinventer
Mais le capitalisme c'est un mécanisme éternel et qui s'ajuste. Et donc ce dont on parle là, il s'agit des ajustements et vous verrez que ça se fera. C'est absolument inévitable. Ouais. Et ça se fera alors peut-être pas par la loi, mais par l'exemplarité.
Oui, moi j'attends de voir quand même, mais en même temps, comme vous dites, ça met du temps.
Mais c'est insupportable, aujourd'hui...
Regardez, il y a un point, parce que tout actuellement, comme c'est tout ça est dans l'air du temps, vous voyez bien, vous entendez comme moi la musique, j'ai reçu ici des chefs d'entreprise formidables qui réussissent, qui vous disent, voilà, il faut changer. Et puis après, vous leur demandez, vous distribuez combien de dividendes ? Quel est votre taux de distribution ? Plus de 60%. Notamment, ben, forcément, à des fonds américains, parce que ça ne peut pas être des fonds français. Et il n'est pas question de changer.
Or, vous verrez que le changement va venir des États-Unis, comme d'habitude. Si vous... Je veux dire, les participants aux réunions du MEDEF n'ont peut-être pas lu l'appel signé aux États-Unis par 120 grands patrons, oui. Dont le patron de BlackRock, dont absolument. Le patron de JP Morgan, c'est-à-dire le cœur du capitalisme américain, qui se disent, ils sont
la
allés plus
dernière.
Loin que nous. Clairement aller plus loin que nous, mais qui se disent il faut maintenant rentrer dans une phase plus redistributrice.
Oui, mais alors quelqu'un à qui je racontais effectivement cette initiative assez forte, notamment du patron de BlackRock, qui disait oui. Alors le patron de BlackRock, il dit ça, mais je peux vous dire que le petit gestionnaire qui est en France ou qui est ailleurs, et ben lui, c'est pas du tout ses critères. Hein, ses critères,
mais c'est vrai.
Sont pas du tout cela. Donc vous voyez, non mais en ce moment je me méfie un petit peu de ce double pas de double discours, mais enfin voilà. De ce côté
quand vous êtes patron de BlackRock,
bien pensant.
Quand vous êtes patron de BlackRock, telles que sont les règles, vous devez les pratiquer, les faire pratiquer aujourd'hui comme hier. Vous pouvez, en tant que participant à la société, lancer un message politique. Et on verra bien dans l'élection. Madame Warren, qui a pris des positions qui apparaissent aux États-Unis assez à gauche. Mmh. Au fond, pour la France, elle est à peu près dans le positionnement politique de François Bayrou, donc qui est quand même assez centriste. Si elle est élue, et de toute façon, même si elle ne l'est pas, le candidat démocrate sera obligé de reprendre un certain nombre de choses, ça bougera. Et de ce point de vue, le côté caricatural que donne au débat social Trump va aller dans ce sens-là. Et comme toujours, le vent soufflera des États-Unis.
L'art distribution. Je trouve bien optimiste, en tous les cas, en disant, parce que pour l'instant, c'est plutôt le vent que souffle et ce qu'incarne Donald Trump qui prend le dessus.
Non, mais ça, je fais avec vous le pari que ça sera très serré. Arrêtons de dire ça. Son taux de popularité n'a pas dépassé 40%. Sa base est solide. On n'en sait rien. De toute façon, les États-Unis créent toujours le mouvement. Ils ont créé la redistribution des 30 glorieuses. Il y a eu la période reaganienne dont Mme Thatcher n'était qu'un émule. Ce sera la même chose. Ça viendra de chez eux.
À la main que vous conseillez beaucoup de grandes entreprises notamment, est-ce qu'on voit bien que, j'écoutais hier Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, mais plein d'autres entreprises se trouvent à un moment charnière avec cette révolution numérique, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a un vrai danger un peu sur nos grandes entreprises françaises ?
Non, je trouve que nos grandes entreprises se sont adaptées très bien, que l'ensemble des grandes entreprises françaises est de meilleure qualité que les grandes entreprises allemandes. Et d'ailleurs, il y en a plus. Ce qui fait la richesse de l'Allemagne, c'est son tissu d'entreprises moyennes. Parce que les grandes entreprises françaises sont françaises dans leurs dirigeants, françaises dans leurs sièges, françaises, disons, dans leurs principaux managers ou leurs centres de recherche. Mais pour le reste, elles sont mondiales. Donc, elles marchent au rythme du monde tel qu'il est.
Donc, pour vous, il n'y a pas de
non,
de
dans les grandes entreprises, elles font le job.
En revanche, peut-être que sur ce patronat donc, très conservateur, lui, il a besoin de trouver d'autres... de comprendre l'intérêt du numérique et l'intérêt peut-être d'exporter aussi. Il y a une mutation qu'il faut faire.
Non, mais c'est, il y a comme toujours un problème de diffusion à l'intérieur de l'ensemble du tissu. Mais ça, c'est vrai en Allemagne aussi. Mais les grandes entreprises ont bougé. Alors le vrai sujet, c'est que malheureusement, l'Europe n'a pas d'entreprise de numérique. Ça, c'est un vrai sujet.
Bien sûr.
Et ça, c'est aussi, puisque vous parliez des travaux d'Hercule de la Commission, eh bien, on va rajouter celui-là.
Ça, c'est sûr. Juste en conclusion, cette rentrée, vous la voyez plutôt... Vous êtes plutôt confiant, en tous les cas, dans ce que je vous écoute.
Non, ce que je crois, c'est que les braises sont encore chaudes. d'une insatisfaction sociale. Parce qu'il y a deux France, on le sait. Il y a la France des gens qui sont à peu près bien dans leur pompe, qui acceptent le monde tel qu'il est, qui se reconnaît en Macron, et c'est 30 à 40% du pays. Et il y a une France malheureuse. Alors ça ne veut pas dire que ça redémarrera par des gilets jaunes, mais le tissu social peut à tout endroit se déchirer, et je pense que le pouvoir l'a maintenant compris.
Merci beaucoup Alain Minc, essayiste économiste, d'avoir été avec nous et de cette conversation un peu sur l'avenir du capitalisme et surtout sur l'Europe, nous a éclairé. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain dans la matinale, je vous le disais, à 8h15. Mon invité, c'est Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Et puis on se retrouve bien sûr dans l'orage. Et puis on se retrouve aussi d'ici une heure, rediffusion de l'orage. Voilà, c'est la rentrée. Bonne rentrée.